Je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, peu avant 7h, Patrice Gélinet nous a raconté une histoire fascinante d'une mademoiselle Zoé. C'est ça, on va y revenir, c'est le nucléaire en France pour les 2000 ans d'histoire. Et aujourd'hui, Patrice.
Effectivement, Zoé, c'était un épisode de cette histoire dont nous allons parler, Fabrice, de Marie Curie au projet ITER, l'énergie nucléaire en France. Chercheurs brisant ou construisant des atomes sauront réaliser des réactions en chaîne. On peut concevoir l'énorme énergie qui sera ainsi libérée. Frédéric Joliot, en 1934. D'histoire. Parce qu'elle peut nous donner le meilleur et le pire, l'électricité ou la bombe, l'énergie nucléaire a toujours suscité des polémiques, y compris parmi les pionniers de cette industrie, qui ont compris, comme Frédéric Joliot, qu'en brisant ou en faisant fusionner des atomes, on pouvait libérer une énorme quantité d'énergie. Celle qui fournit aujourd'hui à la France 80% de son électricité. C'est l'aboutissement d'une histoire commencée au 19e siècle, quand en 1896, Henri Becquerel démontrait la radioactivité de l'uranium et quand 2 ans plus tard, Pierre et Marie Curie découvraient les propriétés étranges d'un métal encore inconnu, le radium.
Il y a eu réaction.
500, l'aiguillette au maximum, Marie. C'est du radium pur.
Oh, il aimait même de la lumière.
La lumière du futur, Marie. La lumière du futur.
J'ai presque envie de pleurer.
Parce que tu entrevois tout le bien que les hommes pourront tirer de cette nouvelle énergie.
Mais là, on n'a qu'à quelques milligrammes. Il nous en faut 1 gramme pour qu'on puisse le voir.
Eh bien, on n'a plus qu'à piler, dissoudre, filtrer, précipiter, recueillir, cristalliser et électrolyser. Ah, mille fois
dessus. Alors, on s'y remet tout de suite. Pas de temps.
Jean-Pierre Poirier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Pierre et Marie Curie découvrant en 1898 les propriétés du radium. Ils font évidemment partie de tous ces pionniers de l'industrie nucléaire dont vous racontez l'histoire dans un livre passionnant, Marie Curie et les conquérants de l'atome, qui a été publié chez Pygmalion. Alors le nucléaire, qui est très controversé malgré tout, mais dont on connaît assez mal l'histoire, et d'abord on sait assez peu que c'est une histoire qui a commencé en France.
Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est de raconter cette saga qui s'étale sur plus de 110 ans et qui fait qu'aujourd'hui la France est une puissance nucléaire d'importance.
Deuxième producteur des États-Unis. Et surtout, 80%, ça aucun pays ne le fait, 80% de l'électricité qui vient du nucléaire.
Ce qui semble tout à fait opportun dans une période où le prix des carburants...
Oui, mais enfin, il y a des contestations, on en parlera.
Bon, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur plus d'un siècle, la France et les scientifiques français se sont investis dans une démarche de recherche qui a permis de passer d'un concept tout à fait neuf, qui était celui de la radioactivité, que vous venez de rappeler et qui était formulé par Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est cette électricité dont nous disposons et que même nous gaspillons un peu, il faut le dire.
Alors Becquerel et Pierre et Marie Curie découvrent au fond la radioactivité naturelle, celle qui émane de l'uranium ou avec Marie Curie du radium, une étape très importante est franchie dans les années 30, d'ailleurs par tout simplement Joliot, Frédéric Joliot, qui était le mari de la fille de Marie Curie et de Pierre et Marie Curie, hein, Irène, donc c'était Irène et Frédéric Joliot-Curie, lui, il découvre la radioactivité artificielle, c'est-à-dire celle provoquée par l'homme, par une réaction qu'on appelle la réaction en chaîne. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Jean-Pierre Poirier.
Voilà, alors, la réaction en chaîne est non seulement un phénomène physico-chimique, mais c'est aussi un phénomène génétique, en quelque sorte, puisque, comme vous l'avez très bien souligné, entre Pierre et Marie Curie, les parents, Irène Curie, leur fille, et Joliot, son époux, il y a une synergie familiale extraordinaire, et qui est pas liée uniquement à la génétique, mais certainement à un élément culturel, et à l'habitude de travailler ensemble dans cet formidable outil de recherche qui a été l'Institut du Radium, créé par Marie Curie, avec l'argent reçu pour ses deux prix Nobel, en 1903 et 1911. Donc, aux alentours à partir de 1934, Frédéric Joliot, qui est un génie, et Irène Curie, qui a le talent et l'intelligence de sa mère, s'associe pour faire des recherches plus poussées sur les possibilités de provoquer de façon artificielle ce phénomène de fission du noyau atomique. Et c'est ainsi qu'ils mettent en évidence ce que vous venez de définir comme la radioactivité artificielle. Et c'est de ce concept-là que naît, grâce à Joliot, et Joliot tout seul, l'idée que chaque fission d'un atome, d'un noyau atomique d'uranium va non seulement libérer deux fragments, plus de l'énergie, et probablement des neutrons surnuméraires. Et ce sont ces neutrons secondaires qui, à leur tour, vont déclencher la fission d'autres noyaux, et c'est ainsi que se démarre cette fameuse réaction en chaîne.
Et une réaction en chaîne qui peut donner deux choses, et c'est en cela, et c'est pour cela sans doute que on craint le nucléaire, même civil, c'est que ça peut aussi donner des bombes. C'est-à-dire que avec cette réaction en chaîne, si elle n'est pas ralentie, elle est explosive, ce sera la bombe A, et avec alors qu'elle peut aussi, si elle est ralentie par ce qu'on appelle un modérateur, elle peut donner de la chaleur et de l'électricité.
En effet. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une coïncidence troublante entre le moment où Joliot a mis en évidence ce phénomène de la réaction en chaîne, en 1939, et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques, eux, souhaitaient avant tout développer le côté énergétique de l'affaire et n'envisageaient absolument pas la bombe. Si l'affaire a évolué dans le sens de la bombe, c'est à cause de cette Seconde Guerre mondiale et du fait que les Américains se sont emparés de l'idée pour développer la fameuse bombe atomique.
Parce que c'est en effet en Amérique que ça va aboutir en 1942 à la première réaction en chaîne, réaction réalisée à Chicago par deux savants, l'Italien Enrico Fermi et le Hongrois Léo Szilard, qui travaillent pour l'armée, qui elle veut une bombe atomique et pas seulement une centrale nucléaire.
Messieurs, nous sommes en présence d'une réaction en chaîne continue et contrôlée.
Non.
Nous venons d'entrer dans l'ère nucléaire.
Pensez à tout ce que l'on pourrait attirer de cette merveille. De la lumière, de la chaleur, de quoi voyager et soigner des malades. L'intérieur de cette pile va connaître les feux les plus puissants de la création. Comme la naissance d'une étoile. Vous vous rendez compte, général?
Mon rêve ne m'intéresse pas du tout.
Ce que je voudrais vraiment, vraiment, mais par-dessus tout, c'est que vous nous fournissiez quelques kilos de plutonium.
Vous les aurez.
Vous réalisez que les Allemands envoient des fusées sur l'Angleterre. Qui vous dit qu'ils n'émettront pas autre chose que de la poudre?
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
Boris Vian, la Java des bombes atomiques, c'était écrit un peu plus tard après la première explosion des bombes atomiques. C'est vrai que c'est aux États-Unis que on utilise cette énergie, cette réaction en chaîne pour faire la première bombe atomique. La France, pendant ce temps-là, a pris du retard. L'équipe de Joliot Curie s'est un peu dispersée, mais je crois qu'elle a participé aussi à la recherche nucléaire sur le continent américain.
Voilà, vous avez tout à fait raison de souligner. En 39, au moment de juin 40, au moment de la défaite, Joliot a décidé de rester en France. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi. On a regretté qu'il n'ait pas fait le même choix que Fermi, l'Italien, qui lui a démarré la première réaction en chaîne à Chicago. Mais il a quand même eu l'habileté d'envoyer à Londres sa réserve d'eau lourde, qui était un matériau extraordinairement précieux et rare, plus ses deux adjoints brillants qui s'appelaient Lou Kowarski et Hans Alban. Et ces deux-là ont non seulement transmis le savoir-faire français aux Anglais, et ensuite l'ont apporté aux États-Unis et au Canada. Donc on peut dire que la France, à travers ces deux personnages et leurs adjoints successifs, qui s'appelaient Guéron, Goldschmidt, Auger, Perrin, etc., ont maintenu vivante la flamme de la recherche française, même à travers les vicissitudes de la Deuxième Guerre mondiale.
Et avec une recherche qui reprend Jean-Pierre Poirier, puisque elle va, dès la fin de la guerre, De Gaulle créer le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, dont la direction d'ailleurs est confiée aussitôt à Frédéric Joliot.
Absolument. Alors De Gaulle avait été tenu au courant, justement par cette petite équipe de Français expatriés aux États-Unis, des progrès que faisait la recherche américaine. Donc De Gaulle n'a pas été du tout surpris lorsqu'il est arrivé au pouvoir au moment de la libération. Il était parfaitement informé des choses. Et son premier soin, lui qui avait pour principal souci la grandeur de la France et le fait d'appartenir aux quatre grands, comme on disait à l'époque, son premier souci c'était de disposer d'une bombe atomique, parce qu'il avait bien compris que les Russes, les Américains et les Anglais en ayant une, si la France n'en avait pas elle aussi une, elle serait considérée comme une nation d'importance secondaire. Enfin, en tout cas, c'était sa vision personnelle. Et son premier souci a d'emblée été de favoriser le redémarrage d'une recherche nucléaire en France, et donc le premier effet a été la création du commissariat à l'énergie atomique, dont Joliot a été le haut commissaire et le grand ponte disposant de crédits très importants, ce qui lui a permis en moins de 3 ans de créer cette première réussite française qu'a été la pile Zoé, objet de grand orgueil national.
Et qui est inaugurée justement par Frédéric Joliot le 15 décembre 1948.
L'exploitation de la première pile atomique nous permettra de préparer les radioéléments artificiels nécessaires aux recherches en biologie, en médecine, en physique, en chimie et même industrielle. Elle nous permettra aussi de former les techniciens nécessaires à notre essor.
Au milieu d'un grand hangar, un cube de béton d'environ 6 mètres sur 6 de base et 4 mètres 50 de haut. C'est Zoé, la première pile atomique française. Cette aimable personne crée toute seule de l'énergie. Elle n'est absolument pas dangereuse, rassurez-vous. D'ailleurs, nous allons demander à monsieur le professeur Francis Perrin de nous dire ce qui se passe derrière cette énorme épaisseur de béton.
Bien, la pile est essentiellement constituée par une cuve en aluminium qui contient l'eau lourde dans laquelle plonge des barres contenant l'oxyde d'uranium. C'est cette association de l'uranium et de l'eau lourde qui constitue, quand ils atteignent des dimensions suffisantes, une pile pouvant réagir.
Je suis de plus en plus content d'être protégé de tout cela par quelques mètres de béton, monsieur l'ingénieur.
Et c'était un reportage dans la première pile atomique française en 1948. On ne disait pas centrale, hein, on disait une pile, Jean-Pierre Poirier. On voit que Joliot la présente comme un instrument destiné uniquement à des utilisations pacifiques. Et en quoi elle consistait exactement? Pourquoi est-ce qu'on disait pile? C'était en fait un prototype, c'est ça?
Oui, absolument, c'était un prototype expérimental, un peu comme celui dont nous parlerons tout à l'heure, qui concerne ITER, qui est lui aussi un prototype expérimental. En fait, c'était l'extrapolation des concepts élaborés par Joliot et son équipe dès 1939, interrompu par la Seconde Guerre mondiale, et repris grâce au savoir-faire de Kowarski en 48. C'était une pile tout à fait rudimentaire, mais enfin qui fonctionnait.
Au fort de Châtillon.
Et qui a fonctionné très longtemps, et qui a été un outil de recherche formidable pour les nucléocrates français.
Donc aussi le prototype de nos futures centrales. Ce qui est amusant quand même, Jean-Pierre Poirier, c'est que quand une centrale est construite en France, aussitôt on se mobilise, elle fait peur, on peut comprendre s'il y a eu tant d'accidents, on en reparlera aussi. Là, en revanche, Zoé était formidablement populaire.
Ah, mais ça a été un grand sujet d'orgueil national. La presse, la radio, tous les organismes de tous les médias se sont mobilisés. Le président de la République, Vincent Auriol, le chef du gouvernement, Henry Coit, se sont déplacés. Les Américains s'affolaient. Le New York Herald Tribune titrait « Le monopole anglo-américain de l'énergie atomique a cessé d'exister hier à midi 12 minutes ». Et pour les Américains, c'était une consternation de penser que les Français, qu'on considérait comme des gens écrasés par la défaite de 39, par des années d'occupation, personne n'imaginait aux États-Unis qu'ils seraient capables de rattraper si vite les idées des anglo-saxons.
J'ai même appris, ça m'a amusé, que effectivement il y a un commerçant qui avait trouvé l'idée astucieuse de créer une marque de soda qui s'appelait Zoé, c'était le nom de cette boisson, Zoé, le soda atomique donne une énergie infinie comme la pile. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Je sais pas ce qui est devenu ce soda. Alors, il y aura une deuxième pile. Celle-là, on la connaît encore mieux. C'est à Saclay en 1952. Mais pour que la France se lance véritablement dans un véritable programme nucléaire, de production d'électricité nucléaire, eh bien, il y aura un jeune ministre dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui et qui a beaucoup compté. C'était Félix Gaillard, qui avait 33 ans quand il lance ce programme.
Voilà, Félix Gaillard était député radical socialiste de la Charente. Il était originaire d'une petite ville qui s'appelle Barbezieux. Et il a été proche de Jean Monnet. Et très vite, il a été séduit par l'idée qu'il fallait construire l'Europe et qu'il fallait que dans cette Europe-là, la France ait un rôle primordial. Et il lui est apparu rapidement que c'était que l'énergie nucléaire était un des domaines où la France pouvait jouer le rôle de leader. Et il a misé à fond sur la recherche, donnant à Joliot toute l'aide qui lui était nécessaire pour développer cette recherche.
Et alors justement, Félix Gaillard lance un plan de construction de centrales nucléaires, et c'est lui qui en 1954 d'ailleurs inaugurait la première véritable centrale nucléaire française à Marcoule.
Le plan de développement industriel de l'énergie atomique de monsieur Félix Gaillard est en marche. Décidé au cours de l'hiver 52, il n'aura donc pas fallu plus de 2 ans à nos ateliers et à nos équipes scientifiques pour doter la France de ce premier réacteur G1, une réussite que l'Europe continentale nous envie. Un grand nombre de spécialistes est venu découvrir sur le site de Marcoule le fleuron de la recherche atomique française. Prochainement, nous ont dit les responsables, les premiers kilowatts nucléaires seront produits à Marcoule. Ces premiers kilowatts sont le signe et l'espoir d'une énergie nouvelle qui va apporter dans les années à venir un confort accru aux usagers de l'électricité. Avec Marcoule, la France vient d'ouvrir la voie du plutonium qui assurera demain notre indépendance et notre sécurité.
Alors après les piles, Saclay, Zoé, voilà la première véritable centrale nucléaire, Jean-Pierre Poirier, c'était Marcoule.
C'était Marcoule. Alors il faut savoir que le début des années 50 a été une période assez dramatique parce que les enjeux politiques sont intervenus dans ce débat qui était au départ purement scientifique, et les Américains d'une part supportaient très mal que les Français progressent trop vite, craignaient que leurs secrets atomiques et ceux des Français ne parviennent à la connaissance des Russes, et en fait en 1950, Georges Bidault, Premier ministre, a été obligé, sous la pression des Américains, de licencier Joliot de son rôle de haut-commissaire à l'énergie atomique. Alors, il s'est passé à ce moment-là...
Oui, parce qu'il était membre du Parti communiste.
Voilà, parce qu'il était membre du Parti communiste, et que, il faut bien dire aussi, il avait tendance à prendre des positions publiques extrêmement en pointe, qui facilitaient pas la relation avec le pouvoir. Donc, le départ de Joliot a quand même été un peu une catastrophe, parce que ça a énormément ralenti les progrès. Et en fait, c'est l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 58 qui, lui, avait son idée derrière la tête, c'était de disposer d'une bombe, qui a donc dit, écoutez, démarrez-moi rapidement une filière qui soit nationale et qui produise comme déchet du plutonium. Parce que moi, le plutonium, ça m'intéresse.
C'est pour les bombes, ça.
Ça va me servir à faire une bombe.
Alors, vous venez d'employer un mot, Jean-Pierre Poirier, qui est important. On ne connaît pas tellement le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Vous avez employé le mot filière. Alors, il faut bien comprendre que des centrales, il y en a des différentes. Elles fonctionnent selon des procédés différents, ce qu'on appelle des filières. Les premières centrales françaises, on appelait ça des centrales graphite-gaz, c'est-à-dire que le modérateur qui ralentissait la réaction en chaîne, c'était du graphite. Le refroidissement était assuré par du gaz. Mais il y avait un procédé américain conçu par Westinghouse, qui est qu'on appelait le REP, c'était réacteur à eau pressurisée, qui lui utilisait un autre moyen, autre filière. Il y a eu un combat pour les filières et finalement, après que la France n'ait construit que des filières, que des centrales graphite-gaz, c'est avec le procédé américain que ne voulait pas De Gaulle, mais qu'accepte Pompidou, que on va construire toutes les nouvelles centrales. Alors, cela dit, c'est un moment avec Pompidou très important. C'est évidemment la crise du pétrole, et là, il y a un grand programme nucléaire qui va aboutir à ce qu'on appelle le tout nucléaire, lancé par Pierre Messmer, hein, et qui va déboucher sur la construction de centrales, à tel point qu'aujourd'hui, on le disait, 80% de l'électricité vient du nucléaire en France.
Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison. Pour revenir d'un mot sur cette guerre des filières, il faut dire la vérité, c'est une guerre beaucoup plus politique que scientifique ou technique, puisque au fond le débat consistait à savoir si on allait prendre comme modérateur de la vitesse des électrons, ce qui permettait de modérer la rapidité de la réaction, si on allait prendre de l'eau lourde, un gaz ou du graphite. Bon, la filière première choisie par les Français, qui était la filière graphite-gaz, vous l'avez rappelé, avait l'avantage d'être facile à réaliser, car nous ne savions pas fabriquer de l'eau lourde à l'époque, qui était un travail extraordinairement difficile et coûteux, et donc on s'était rabattu sur le graphite. L'inconvénient, aux yeux de certains de cette filière, était qu'elle produisait comme déchet du plutonium, mais ça convenait assez bien à De Gaulle qui voulait sa bombe.
En tout cas, les centrales se multiplient en France. C'est un programme qui suscite, on s'en doute, beaucoup de manifestations, mais aussi des mises en garde, comme celle de Théodore Monod en 1976.
Il s'agit en fait d'un choix de civilisation, et d'un choix qui porte sur des périodes très longues. Alors, est-ce qu'on a le droit, moralement, de mettre sur les épaules de nos descendants, pour des générations et des générations, pour des milliers d'années, un fardeau tel que celui-là? Et alors, elle se rattache à ce que j'appelle une hérésie intellectuelle non moins majeure, c'est le fait que, dorénavant, dans notre civilisation mécanique et technocratique, on en arrive à faire les choses non pas tellement parce qu'on les a longuement étudiées, réfléchies, méditées, qu'on a jugé à la fin de cette réflexion qu'elles étaient bonnes pour l'avenir de l'homme. Non, on en arrive à faire les choses parce qu'on peut matériellement les faire.
Bonsoir. Le rassemblement antinucléaire de Crémalville, un mort, un manifestant, deux autres jeunes gens mutilés, une centaine de blessés plus légers. C'est à Faverges que les heures ont été les plus dures.
Messieurs les ingénieurs, à la porte d'en face, on voudrait bien savoir un peu ce qui se passe, quels oiseaux vont nicher dans vos arbres d'acier, qui jamais ne bourgeonne, la finie l'anémone, la finie l'olivier, et la durance est triste dans vos jardins sans fleurs. À l'abri des touristes, veille seule dans la nuit, l'œil d'un sens interdit. Messieurs les ingénieurs, si c'est vrai qu'on vous cache, on voudrait bien savoir pourquoi tournent les heures du temps qui nous fait peur. Ici, à Cadara.
Hélène Martin, Cadarache, une très très belle chanson, évidemment, qui n'est pas très favorable au programme nucléaire. Vous-même, bon, vous êtes plutôt favorable au nucléaire, Jean-Pierre Poirier, mais vous ne cachez aucun des dangers que l'on court avec ces centrales. Et ils sont nombreux, et évidemment, on a en mémoire les plus graves, c'est-à-dire notamment Tchernobyl, mais aussi Three Mile Island aux États-Unis. Ça, il y a des risques d'accidents.
Oui, alors il faut être objectif. Il y a eu 4 grands accidents, vous l'avez dit, il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl, il y en a eu un en Angleterre à Sellafield, il y en a eu un au Japon à Tokaimura. Ouais. Bon, ces 4 accidents ont été analysés très soigneusement et reposent en fait sur des erreurs humaines de mauvaise gestion
Il y en a toujours des erreurs humaines.
Certes,
il y a eu des
morts. Je veux dire, c'est pas intrinsèque à la technologie elle-même. C'est une mauvaise exploitation de la technologie. Et je rappelle au passage qu'il n'y a jamais eu d'accident de cette gravité en France depuis plus de 50 ans. Donc, à mon avis, c'est pas tellement le problème des accidents qui est le plus préoccupant, c'est celui des déchets. Parce qu'il faut bien convenir que les déchets radioactifs à longue durée de vie et à haute toxicité nous posent pose quelques problèmes de stockage et de gestion. Alors, on a des espoirs pour des réacteurs à neutrons rapides qui, un jour, seront capables de consommer les déchets qu'ils produisent eux-mêmes, ce qui, d'une part, améliorera leur rendement, donc leur économie de fonctionnement, et d'autre part, les rendra moins polluants.
Ce qui est dangereux, c'est pas seulement les déchets, c'est la durée de vie de la radioactivité de ces déchets.
Tout à fait. C'est leur durée de vie, le vrai problème.
Donc ça, c'est un sérieux obstacle. Il y a aussi, bien sûr, les risques que peuvent courir, on le voit bien avec l'Iran, de l'utilisation de l'électricité civile, enfin des centrales civiles pour à des fins militaires. Alors les avantages, selon vous, il y en a beaucoup. Il y en a un qui m'a étonné. Vous dites que c'est avantageux pour l'environnement.
Ah bah oui, c'est même l'avantage que mettent en avant les partisans de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle ne produit pas de gaz à effet de serre et que par conséquent elle ne participe pas au réchauffement de l'atmosphère, qui est quand même un de nos grands problèmes contemporains. Ça, c'est un des grands avantages. Le deuxième grand avantage, c'est qu'elle constitue une solution de rechange à la disparition progressive et programmée des hydrocarbures. Nous savons tous que dans 50 ans, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les hydrocarbures seront de plus en plus rares, de plus en plus chères.
Oui, mais on peut envisager d'autres formules. On peut, par exemple, envisager l'énergie éolienne aussi. Évidemment, c'est forcément la moins polluante de toutes.
Alors, là, les spécialistes répondent qu'ils sont tout à fait d'accord pour les économies d'énergie, tout à fait d'accord pour l'utilisation de ces énergies dites renouvelables, mais il semble bien qu'elle soit pas du tout en mesure de nous apporter la même contribution énergétique que de fait l'énergie nucléaire. Rappelons un seul chiffre, un gramme d'énergie nucléaire vaut 3 millions de fois un gramme de charbon en matière de production d'énergie. Ça vous donne une idée de l'importance de ce qu'il nous faudrait remplacer.
Donc le combustible n'est pas rare. Alors surtout, évidemment, si le nucléaire utilise des éléments fournis par l'eau, comme c'est ce que prévoit d'ailleurs un nouveau programme de centrales nucléaires dont l'expérimentation se fera en France, le programme de réacteurs thermonucléaires expérimentales international ITER, France Inter, Agnès Bonfillon, le 30 juin 2005.
Jacques Chirac, qui s'est rendu à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Vous le savez, cela fait 2 jours que l'annonce a été faite. Le site du réacteur thermonucléaire expérimental va y être installé. Le chef de l'État est donc allé sur place, histoire de féliciter les élus locaux et le personnel. Jacques Chirac.
J'ai tout fait pour que la France puisse accueillir ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'une grande ambition française. Justifié par une exceptionnelle compétence rassemblée ici, à Cadarache. Une ambition pour la recherche, pour l'innovation, pour le progrès, pour le développement durable. Bravo et merci.
Et c'était Jacques Chirac à Cadarache, où sera expérimenté ce projet ITER. En quoi consiste-t-il, Jean-Pierre Poirier, en quoi serait-ce un progrès ?
Alors, ce qu'on peut dire, d'abord, c'est définir le projet ITER. C'est une très grande ambition, puisqu'il s'agit de reproduire sur Terre une réaction productrice d'énergie qui se produit à chaque seconde dans le Soleil.
Oui, et dans les bombages aussi, hein, dans les bombes à hydrogène, c'est la fusion, ça.
Enfin, ouais. Revenons au principe. À chaque seconde, 700 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en 700 millions de tonnes d'hélium dans le Soleil. Et l'idée des scientifiques est de reproduire ce processus sur Terre en utilisant du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène, dont la production est relativement facile, puisque le deutérium est obtenu à partir de l'eau de mer, et le tritium serait obtenu à partir de neutrons surnuméraires produit par ITER lui-même.
Oui. Et en travaillant c'est un peu compliqué. C'est au fond l'eau de mer, la source d'énergie en quelque sorte.
Voilà.
Bon, c'est en ça qu'on considère ça comme progrès. C'est extrêmement difficile à réaliser. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a d'autres projets aussi, on n'a pas le temps de s'y étaler, que c'est l'avenir et surtout, parce que ce serait peut-être plus avantageux, est-ce qu'on peut se passer du nucléaire, selon vous, Jean-Pierre Poirier?
Ben, on peut se passer du nucléaire si on accepte de revenir à une économie pauvre en industrie, pauvre en transport, pauvre en moyens de communication de toutes sortes. J'ai pas l'impression que ce soit la tendance de nos civilisations modernes. Mais revenir à une économie pastorale me paraît quand même un rêve tout à fait irréaliste. Donc, si les sociétés modernes refusent de remettre en question leur mode de vie, il nous faut de l'énergie. Et cette énergie ne viendra pas des énergies renouvelables, nous l'avons dit. Reste le nucléaire.
Alors, c'est votre point de vue. Hein. On aura peut-être dans ce studio quelqu'un qui partage pas forcément le vôtre. En tout cas, votre livre est passionnant. J'en recommande la lecture. Marie Curie et les conquérants de l'atome, publié publié aux éditions Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des Palmes de Monsieur Schutz, un film de Claude Pinoteau, avec Isabelle Huppert et Charles Berling dans les rôles de Marie et Pierre Curie, est disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, et puis un autre film, La course à la bombe, de Jean-François Delassu, édité par Astral Film. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.